Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez dans RFI Soir. Il y a quelques jours, la Banque d'Angleterre relevait sa prévision de croissance pour 2017 à 2% contre 1,4% estimé quelques semaines plus tôt, c'était au mois de novembre. Faut-il pour autant rester optimiste sur les conséquences économiques d'un Brexit dont on sait désormais qu'il sera hard, comme a dit Theresa May, c'est-à-dire sévère, radical, avec une sortie du marché unique. La place financière de Londres, la fameuse City, survivra-t-elle à la sortie de l'Union européenne? Les questions sont nombreuses à quelques semaines du déclenchement de l'article 50 qui doit lancer la fameuse procédure du Brexit. Mais force est de constater que le marasme économique que prédisaient les détracteurs du Brexit est loin d'avoir eu lieu ou d'avoir commencé. On va en discuter. Les marchés financiers ont bien plongé dans les jours suivant le vote, mais aujourd'hui, ils atteignent des sommets. Alors Brexit, et si l'économie britannique était plus résistante que prévu, c'est notre débat de ce soir. Bienvenue.
RFI.
Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Catherine Mathieu, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste du Royaume-Uni, des questions européennes, économiste au département analyse et prévision de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. En face de vous, pour en parler, Christian de Boissieu, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et vous êtes le président du Conseil franco-britannique. Alors, j'ai envie de commencer par une question un peu choc, posée comme ça. 7 mois après le vote en faveur du Brexit, la catastrophe économique ne s'est donc pas produite. J'ai mentionné quelques chiffres. On a l'impression que pour une fois, ce ne sont pas les sondages qui se sont trompés, Catherine Mathieu, mais les économistes. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ça?
En fait, il faut bien voir que ce qui se passe avec le Brexit, c'est quelque chose qu'on n'a jamais connu dans le passé. C'est la première fois qu'un pays décide de quitter l'Union européenne. Et donc, en fait, avant que le vote n'ait lieu, les économistes qui essayaient de faire des prévisions pour savoir ce qui se passerait en cas de Brexit faisaient un certain nombre d'hypothèses. Parmi celles qui étaient les plus couramment faites étaient qu'il y aurait effectivement une très forte baisse de l'activité au lendemain du Brexit, s'il y avait Brexit, et cela pour plusieurs raisons. La première raison, la montée des incertitudes. On a actuellement, du moins on avait jusqu'en juin, un Royaume-Uni qui est dans l'Union européenne. À un moment donné, ce pays décide de sortir de l'Union européenne. Comment cela va-t-il se passer pour lui? Quelles vont être les relations avec les autres pays de l'Union européenne? Et donc, qui dit incertitude, dit arrêt des investissements, dit de façon possible arrêt de la consommation.
Confiance des ménages, on va y venir justement.
Donc en fait, on pouvait dérouler un scénario très très négatif de ralentissement de la croissance. C'est ce que faisaient la plupart, effectivement, des institutions internationales et avant tout le gouvernement britannique.
Et alors du coup, est-ce que vous avez été surprise quand vous avez eu cette réévaluation de la croissance?
Alors, pour tout vous dire, en fait, moi, je faisais partie des rares économistes qui disaient que s'il y avait Brexit, on n'était pas sûr que la croissance ralentisse.
Vous étiez prudente.
J'étais prudente, mais en fait, il faut bien voir, c'est ça la principale difficulté pour un économiste aujourd'hui d'évaluer ce qui va se passer suite au Brexit, c'est qu'on n'a aucun élément de comparaison. Donc on en est réduit à faire des hypothèses, en particulier vraiment sur le comportement des agents économiques, des ménages, des entreprises, et on ne peut que faire des hypothèses.
Ce caractère inédit, vous êtes d'accord, Christian de Boissieu, ça complique effectivement les prévisions, l'analyse du phénomène qui n'a pas encore vraiment commencé finalement.
D'abord, c'est pas la première fois que les économistes se trompent. Et je me mets là-dedans. Je ne mets pas à l'extérieur d'erreurs possibles.
Un petit mea culpa.
Bon, non, mais je veux dire, bon, voilà. Deuxièmement, je pense que il faut vraiment dans le débat sur les effets du Brexit, pour eux, le Royaume-Uni, et pour nous, parce que nous sommes quand même s'ils vont nous quitter, ils vont divorcer, nous sommes dans le même bateau. Les échanges vont pas chuter ou s'arrêter entre le Royaume-Uni et l'Europe continentale. Moi, je distingue les effets de court terme et les effets plus durables. À très court terme, là, je pense que la profession économique s'est trompée parce que nous avons, les uns les autres, sous-estimé les conséquences de la chute de la livre sterling. La livre sterling a perdu 20% par rapport au dollar depuis le vote du 23 juin. Elle a perdu un peu moins par rapport à l'euro, mais elle a quand même perdu. Bon, ça, la chute de la livre sterling, c'est bon pour leur croissance à eux, parce que ça améliore la compétitivité des exportations britanniques, et je pense que ça jouait un rôle dans
Peut-être qu'on a sous-estimé finalement
l'impact
de la livre sterling, et on a surestimé l'incertitude, oui. Le climat de peur, parce que ce qui est intéressant, c'est que cette croissance, elle est quand même tirée par un niveau de consommation aujourd'hui, qui montre qu'ils ont confiance.
Je termine juste mon raisonnement, parce qu'avec la chute de la livre sterling, vous avez une remontée de l'inflation, en Grande-Bretagne, qui pèse sur le pouvoir d'achat des Britanniques. Donc là, il peut y avoir une petite menace sur la consommation. L'investissement, Catherine l'a dit, est pas avantagé par tout le brouillard, parce que vous parliez de l'article 50, le calendrier, mais il y a une foule d'incertitudes. Madame May va envoyer sa lettre qui va déclencher le début de la procédure de divorce, qu'on appelle l'article 50 du traité de l'Union européenne, et elle va l'envoyer en principe pour la fin mars de cette année. Bon, ça va ouvrir une période de maximum de 2 ans, mais qui peut éventuellement durer plus longtemps sous certaines conditions.
D'où la nécessité, selon vous, de bien faire la distinction entre les effets à court terme et ce qui va se déclencher dans la longueur.
Je termine en disant que même sur la négociation, il y a comment est-ce qu'on divorce, et ensuite comment est-ce qu'on renoue les relations, parce que le divorce, ça veut pas dire la séparation totale. On va continuer quand même le futur statut du Royaume-Uni. Et je termine en disant sur les effets à moyen long terme, moi je pense que le Brexit va être négatif pour tout le monde. Ça va être un scénario perdant-perdant. Je pense que ça va être négatif pour eux et négatif pour nous en termes de croissance.
On va en venir au long terme, mais je voudrais d'abord qu'on analyse la situation d'aujourd'hui. Je le disais tout à l'heure, ce qui est intéressant, Catherine Mathieu, c'est que finalement, et vous l'avez dit, cette incertitude, elle n'a pas généré de peur du côté du consommateur britannique, puisqu'on a des crédits à la consommation qui sont en hausse, un taux d'épargne qui est déjà assez bas dans le pays, qui a encore reculé. C'est assez étonnant, ça, quand même.
Oui, ce qui est effectivement étonnant, c'est qu'on a... Pour commencer, en fait, on attendait à très court terme un effet du ralentissement de l'investissement des entreprises après le Brexit, en disant, oulala, incertitude, les entreprises vont arrêter d'investir. Ça, on ne l'a pas vu. Donc cet effet de très court terme négatif, qui était attendu par certains, ne s'est pas produit. La croissance a continué, s'est poursuivie à un rythme assez soutenu, puisqu'on est sur un rythme de croissance de 2% de l'économie britannique, comme vous le disiez en introduction.
C'est la croissance la plus forte du G7.
Oui, voilà, et donc on aimerait bien, notamment en France, avoir une croissance aussi forte que celle-là, on est plutôt sur des rythmes de 1, à peine un peu plus de 1%. Il y a de la croissance, il y a de la production, il y a de l'emploi au Royaume-Uni, il y a de la consommation. Donc à très court terme, effectivement, tous les indicateurs sont au vert pour l'économie britannique. L'économie britannique continue à croître. Et on n'a pas encore vu l'effet positif de la baisse de la livre sur les exportations. Parce que cet effet-là, en fait, il joue généralement avec un délai de 6 mois.
Non, mais on l'a vu sur le tourisme.
On l'a vu sur le tourisme, effectivement, avec une arrivée de tourisme. Sur les exportations, par contre, de marchandises, ça va se produire, cet effet doit venir. Et donc, pour l'instant, effectivement, on n'a aucun des effets négatifs qui auraient dû jouer par l'incertitude qui s'est produit. Et l'effet que vous mentionniez, Christian, tout à l'heure, sur l'inflation, effectivement, on a une inflation qui, aujourd'hui, augmente un peu du fait de la baisse de la livre, qui fait que les produits importés britanniques sont plus chers, mais cette inflation aujourd'hui, elle est de 1,6% en rythme annuel. Donc on reste sur une inflation qui est très faible. Il faut bien voir qu'on était, avant le Brexit, dans une situation où l'inflation était nulle au Royaume-Uni. Donc il y a de la marge avant que l'inflation devienne très forte.
Est-ce que je peux être un peu moins optimiste que vous, même à court terme?
Nous sommes dans un débat.
Même à court terme. J'ai dit que j'étais pessimiste sur le moyen long terme par rapport au sujet que vous posez. Je suis pas pessimiste en général, mais là, je pense que ça va être un scénario perdant-perdant en termes de croissance pour eux et pour nous. N'oubliez pas que le Royaume-Uni, c'est le 5e partenaire commercial de la France, si je ne m'abuse. Bon. Je suis... Vous citiez d'emblée la prévision de la Banque d'Angleterre, revue à 2%. Moi, je regardais les prévisions du Fonds monétaire international pour 2017-2018. Elles sont en dessous. Alors, le FMI peut se tromper. C'est pas parce que vous avez des centaines d'économistes à Washington qui vont avoir raison. Mais je dis simplement que le Fonds monétaire, dans les prévisions présentées à Davos, au Forum de Davos, sur le Royaume-Uni, c'est plutôt pour 2017-2018 une croissance de 1,4-1,5. Alors, qui va avoir raison de la Banque d'Angleterre? Vous donniez 2% pour 2017. Si je ne m'abuse, ce n'était pas pour 2016. 2016, c'est 2%, on est d'accord. 2%. Le débat, c'est 2017-2018. Bon, et moi je pense qu'ils vont quand même décélérer. Ils vont avoir une croissance qui va ralentir et qui ne va pas rester à 2%. Bon, et que L'investissement, certes, n'a pas chuté, mais ce qui commence à chuter, c'est l'investissement direct étranger en Grande-Bretagne.
Alors, j'allais y venir. Donc, a priori, pour l'instant, tous les voyants sont au vert, mais il y a des signes d'un ralentissement sur l'investissement, notamment. Ça, on commence à le voir un petit peu, Catherine Mathieu.
Pour moi, ça n'est pas clair, hein, parce que quand on regarde les indicateurs conjoncturels, toutes les données sur l'investissement des entreprises, elles restent vraiment très bien orientées. On ne voit pas d'anticipation à l'horizon de 6 mois de ralentissement de l'investissement.
Alors on peut peut-être donner d'ailleurs quelques exemples, j'en ai là, mais vous en aurez peut-être d'autres. Nissan a confirmé que le nouveau Qashqai, donc c'est un modèle de voiture, serait bien assemblé dans une usine de nord de l'Angleterre. Il y a Facebook, Apple, Google, McDonald's qui ont aussi annoncé qu'ils allaient renforcer leur présence à Londres, ce qui montre effectivement qu'a priori, cette instabilité, ils ne la craignent pas pour l'instant.
Eh bien, c'est-à-dire que jusqu'ici, oui, effectivement, mais jusqu'ici, Theresa May a réussi, je pense, à rassurer les investisseurs étrangers sur le fait qu'elle maintiendrait une politique très favorable à l'activité des entreprises. Il faut bien voir que ça aussi, c'est une tradition au Royaume-Uni d'avoir une politique très favorable aux entreprises. Les taux d'imposition sont très faibles sur les sociétés. Ils vont encore baisser pour arriver à 17% probablement d'ici 2 à 3 ans. Theresa May fait toutes les annonces possibles pour rassurer les investisseurs étrangers, leur dire si vous continuez à investir chez nous, vous connaissez le Royaume-Uni, une économie très libérale, très favorable à l'activité des entreprises et vous pouvez être sûr qu'on continuera à faire tout ce qu'il faut.
Si on prend les services bancaires et financiers, c'est pas tout à fait la même chose. HSBC, pour prendre l'exemple d'une des plus grosses banques britanniques, a commencé à annoncer des délocalisations vers le continent, y compris vers Paris, même si par rapport à ce phénomène de délocalisation éventuelle d'un certain nombre d'opérateurs financiers, les gens vont pas venir à Paris comme ça. Est-ce que la France est attractive? On peut en débattre, on n'est pas les seuls. Il y a Francfort, il y a Dublin qui va attirer un certain nombre de... Donc, le débat va être le suivant. Est-ce que au terme de la négociation, est-ce que les Britanniques vont conserver ce qu'on appelle le passeport européen ou l'équivalent du passeport européen qui permet, s'ils le conservent, qui permettrait de Londres de vendre des produits financiers dans le reste de l'Europe? S'ils conservent le passeport européen, à mon avis, la City va rester la place financière principale de l'Europe, mais avec le hard Brexit que vous évoquiez au départ, on n'est pas du tout dans le scénario où ils vont conserver le passeport européen.
Et donc ça, le problème, on n'en sait rien du tout.
Non, mais si on est dans le hard Brexit, à mon avis, on ne va pas leur concéder le passeport européen.
Parce que le problème, c'est est-ce que les autres, les 27 restants, y ont intérêt. Vous allez un petit peu vite, Christian Boissieu, parce que je voulais demander à Catherine Mathieu, là, quand vous nous dites finalement que sur les investissements, ce n'est pas très clair, on ne voit pas de crainte, est-ce que vous êtes en train de nous dire que le Brexit pourrait ne pas avoir cet impact qu'on a tant craint et que les détracteurs du Brexit ont un petit peu brandi pour ne pas faire voter, ou est-ce que vous dites juste ça va arriver plus tard?
Alors, si je suis tout à fait honnête aujourd'hui, je vous réponds, je ne sais pas. Parce que tout dépend des négociations qui vont se mettre en place entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Soit le Royaume-Uni arrive à obtenir de l'Union européenne un accord favorable à la fois pour le Royaume-Uni et, me semble-t-il, pour l'Union européenne, c'est-à-dire continuer à avoir un accès au marché commun pour les Britanniques, donc pouvoir échanger sans barrière. Ça inclut aussi la question du passeport financier que vous mentionniez tout à l'heure. Et dans ce cas-là, on n'aura pas de ralentissement, on n'aura pas d'effondrement de l'économie britannique. Soit
donc
les
vous
Européens...
Vous dites, en fait, ça pourrait être gagnant-gagnant.
Ça pourrait être gagnant-gagnant, ouais. Parce que nous, il faut bien voir qu'aujourd'hui, la France a un excédent commercial avec le Royaume-Uni, tandis que le Royaume-Uni est en déficit vis-à-vis de tous les pays de la zone euro. Donc le Royaume-Uni a surtout intérêt aujourd'hui, en fait, à commercer d'abord avec les États-Unis, vers lesquels ils dégagent leur principal excédent commercial. Et de ce point de vue-là, la baisse de la livre est un point important favorable pour l'économie britannique. Le problème pour l'économie britannique, c'est que si effectivement les Européens adoptent une position dure et disent « Ah, mais non, on n'accordera pas le maintien du passeport financier à vos activités », effectivement, là, ça posera la question de façon difficile.
C'est pas moi qui suis dur. C'est eux qui sont les Britanniques qui veulent le beurre et l'argent du beurre. Parce qu'ils veulent avoir le droit de contrôler les flux d'immigration en Grande-Bretagne. Or, la mobilité des personnes est une composante importante du marché unique. Ils veulent pouvoir contrôler de manière très étroite les flux d'immigration, tout en conservant le reste du marché unique.
Mais à la décharge des Britanniques, je dirais en fait que les Britanniques sont les seuls, en 2004, avec les Irlandais et les Suédois, à avoir justement laissé la libre circulation des travailleurs, et à ne pas avoir mis de restrictions de venue des travailleurs des nouveaux pays membres à leurs frontières. C'est ce qu'on a fait, nous, mettre des restrictions en France et en Allemagne. Et ce sont eux qui ont eu accepté le plus d'immigrés.
Donc, ce que vous voulez dire, c'est que ceux qui ont le plus, en fait, tester l'Europe, dans toutes ces acceptations, ce sont eux.
De l'Europe,
ils n'ont jamais été dans Schengen.
Mais pour la circulation des travailleurs, les Britanniques ont vraiment joué tout à fait le jeu dès le départ. Donc en fait, on ne peut pas leur reprocher de ce point de vue-là.
Mais je ne reproche rien, moi, je parle de prévision.
De vouloir le beurre et l'argent du beurre.
Moi, je prévois
l'argent. C'est-à-dire qu'ils sont pour une autre forme d'Europe. Ils sont simplement, pour moi, les Britanniques, ça n'est pas compliqué, ils sont entrés dans une Europe du marché commun, simplement où on échangeait librement des biens et des services, rien d'autre.
C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent conserver l'accès au marché unique.
Mais dans la zone euro.
Finalement, l'élection de Donald Trump, ce serait éventuellement une bonne nouvelle pour eux si vous dites qu'ils veulent commercer plus avec les États-Unis qu'avec le reste de l'Union européenne.
Eh bien, effectivement, ça leur ouvre en tout cas la possibilité de signer un accord de libre-échange avec les États-Unis, ce à quoi Obama avait dit aux Britanniques, attention, si vous sortez de l'Union européenne, ça sera très dur pour vous. Vous serez à la fin de la liste d'attente pour pouvoir négocier un traité de libre-échange. Vous passerez en dernier. Tandis qu'avec Donald Trump, apparemment, ça permet plus facilement d'envisager un accord de libre-échange.
Je voudrais qu'on parle quand même de la City, la fameuse la City. Donc vous êtes assez pessimiste, vous dites, c'est pas la fin de la City, mais c'est la fin de l'âge d'or de la City.
Il y a une opportunité pour les autres places financières de profiter éventuellement de phénomènes de délocalisation d'activités. D'une partie, la City va rester la City. Elle existe depuis au moins le 18e, le 19e siècle, ça va pas disparaître comme ça.
Il y a même plein de sociétés qui disent aujourd'hui, plein de bureaux qui sont montés, qui disent on envisage le déménagement.
Ça va dépendre du futur statut. Et moi, aujourd'hui, tel que je comprends ce qui se passe, c'est-à-dire le discours un peu dur de Madame May l'autre jour, le fait qu'elle est la première dirigeante européenne à avoir été reçue par Monsieur Trump, c'est quand même un signal politique important, ça, y compris envoyé à nous. Au moment où Trump dit que l'Europe n'existe plus, qu'il veut la casser, etc., vive le protectionnisme. Bon, elle va pas à Canossa, mais elle va quand même à Washington, Madame May. Donc, moi, je dis simplement que je pense que le scénario dans lequel les Britanniques pourraient conserver l'essentiel du marché unique, ce à quoi, chère Catherine, ils sont attachés, je suis d'accord avec vous, pourraient conserver l'essentiel du marché unique, tout en mettant des contrôles très strict sur les flux migratoires d'entrée au Royaume-Uni, ce scénario me paraît pas nécessairement plausible aujourd'hui. Il va y avoir des négociations dures, il faut qu'elles soient dures, et il faut que les 27 qui restent soient d'accord entre eux, pas uniquement le couple franco-allemand, ce qui n'est pas gagné, là, je suis d'accord.
Alors, sur la City, l'un des grands lobbies du secteur financier de la City, qui s'appelle The City UK, je crois, dit qu'il faut obtenir un bon Brexit pour la City. Alors, ça veut dire quoi, Catherine Mathieu, un bon Brexit pour la City?
Ça veut dire pouvoir continuer à exporter des services financiers librement avec le reste de l'Union européenne. Alors, aujourd'hui, effectivement, l'Europe est en position de force pour dire aux Britanniques qu'on ne va pas vous accorder ce passeport financier. Oui, mais en même temps, les implications sont tellement fortes sur le plan financier entre les institutions de la zone euro et de l'ensemble de l'Union européenne que moi je pense que finalement les Européens ne seront pas si durs qu'ils l'annoncent aujourd'hui.
Il y a une forme de bluff des institutions européennes.
Je pense, bien sûr. Oui, on entre dans des négociations, donc en fait chacun pose ses arguments,
montre ses muscles,
met des lignes rouges et puis ensuite il y aura effectivement des équilibres qui seront trouvés. Mais il y a tellement d'imbrications et le fait que la City gère énormément d'activités de la zone euro. Ça, c'est quand même quelque chose qui est très ancré maintenant dans le système financier européen. Ça offre certains avantages aussi pour les institutions, y compris pour les institutions européennes, parce qu'elles ont accès à la place de Londres et à des produits financiers qui sont très inventifs.
Donc pour vous, un bon Brexit, c'est plausible.
C'est plausible.
Et pour vous, c'est pas plausible du
tout? Je pense que ça va être un hard Brexit et que ça va être de la hard négociation. Et que ça va durer beaucoup plus longtemps qu'on le pense. Le divorce va durer au moins 2 ans, mais peut-être même plus longtemps, et qu'ensuite, il va falloir renégocier le futur statut du Royaume-Uni par rapport à nous, et que ça n'est pas gagné, de part et d'autre, ça va être compliqué. Mais je reste optimiste. Moi, je passe une partie de ma vie à faire du franco-britannique. Je crois au bilatéral. Le Brexit, ça veut dire moins de multilatéral. Et c'est pour ça que là où je suis, j'essaye de renforcer la coopération entre les deux pays, la France et la Grande-Bretagne, sur beaucoup de sujets.
Bah, rendez-vous dans 2 ans, ou peut-être encore plus tard, pour faire un premier bilan donc, de ce Brexit. Merci beaucoup à nos deux invités. Catherine Mathieu, spécialiste du Royaume-Uni et des questions européennes, économiste au département analyse et prévision de l'OFCE. Merci également à Christian de Boissieu, professeur à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, président du Conseil franco-britannique dont vous venez de nous parler. Merci également à Florence Poncet, Quentin Bresson. C'est la fin de RFI Soir. On se retrouve demain pour un nouveau débat. RFI.